Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le deuxième volet des pièges, des principaux pièges en ophtalmologie vétérinaire. Cet épisode va être consacré sur le glaucome et lorsque l'œil va monter en pression. Tout d'abord, l'objectif aujourd'hui, c'est d'identifier les erreurs les plus fréquentes dans le diagnostic du glaucome chez le chien et le chat et de refaire le point un peu sur le diagnostic et surtout sur le diagnostic différentiel. Le glaucome, c'est une pathologie assez fréquente et répandue, plus présente chez le chien que chez le chat, avec des causes diverses et variées. Le principe déjà est de comprendre le fonctionnement de la circulation du liquide dans l'œil, en fait, donc l'humeur aqueuse qui est présente dans la chambre antérieure de votre œil et de l'œil des animaux n'est pas statique. Elle est en permanence renouvelée, produite au niveau de l'humeur, donc au niveau des corps ciliaires. Il va y avoir une circulation ensuite sur la face postérieure de l'iris, passer l'humeur aqueuse va circuler entre l'iris et le cristallin, puis retourner vers l'angle iridocornéen. C'est un angle qui est formé entre l'iris et la cornée, donc c'est vraiment dans un cul-de-sac qui va être formé par un trabéculum, une structure en fait fibreuse qui va limiter la filtration et dont la malformation va pouvoir engendrer des troubles de filtration. C'est ce qu'on appelle le glaucome primaire. Quand l'angle iridocornéen va être trop étroit, refermé, dans certaines races, ça va occasionner justement des troubles barométriques et des problèmes de pression. Ça, c'est la voie principale qu'on appelle la voie vraiment conventionnelle. Il existe une seconde voie qui est une voie d'élimination qu'on dit non conventionnelle, qui est donc la voie uvéosclérale, qui va permettre de réabsorber une partie en fait de l'humeur aqueuse de manière indirecte. Ce qui est important de comprendre, les principales erreurs que je vais pouvoir constater, moi, quand on va m'adresser des cas de glaucome, c'est l'absence de ce que j'appelle la tétrade, vraiment les quatre symptômes classiques qu'on observe lorsqu'on va avoir un glaucome chez un animal. Ces signes, ils sont assez faciles à reconnaître, il n'y a pas forcément besoin de matériel. Beaucoup de vétérinaires vont me dire, oui, mais j'ai pas de tonomètre, je ne peux pas diagnostiquer un glaucome. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un glaucome, on va souvent avoir quatre signes principaux. Ça va être la douleur qui apparaît souvent de manière suraiguë. Donc ça va occasionner donc un blépharospasme, donc des clignements répétés de l'œil de l'animal, un amphiphora, donc des sécrétions augmentées au niveau de l'œil atteint, souvent un amphiphora qui va être de nature séreuse, donc translucide au niveau des sécrétions. Et éventuellement des réactions de frottement, grattage par l'animal de manière intempestive, soit avec sa patte, soit sur les structures environnantes. Donc la douleur, c'est souvent un premier signe qui peut ne durer que quelques jours et qui peut faire dire au propriétaire, oui, il a eu mal quelques jours, mais ensuite il n'a plus mal. C'est tout simplement parce qu'en fait, l'innervation de l'œil fait qu'au bout d'un temps, la compression par l'augmentation de la pression va saturer et va étouffer justement ces fibres sensibles qui ne sont plus capables de sentir la douleur. Donc premier signe. Le deuxième signe, ça va être souvent l'hyperémie conjonctivale qui va être très marquée et beaucoup plus dense, beaucoup plus importante. Les vaisseaux sont de fort et gros diamètre. Ce sont des vaisseaux épiscléraux qui vont être relativement turgescents au niveau de la conjonctive supérieure et inférieure. La mydriase, la dilatation de la pupille est logique et c'est vraiment le signe que vous devez rechercher. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette pupille, elle subit les effets de l'augmentation de la pression, donc ça va repousser la pupille, enfin plutôt l'iris, à sa limite. Donc si vous avez un myosis et que vous suspectez un glaucome, ce n'est pas possible en pratique. Dernier signe, c'est l'opacification de la cornée. Parfois, vous ne voyez plus du tout ce qui se passe à l'intérieur de l'œil, puisque vous avez un œdème cornéen réactionnel. D'accord. Donc, deux autres signes qui sont plus variables, c'est l'altération de la vision, la diminution de la vision. On peut avoir des animaux qui sont à une pression très élevée et quand même continuer à voir. Donc, attention, ne vous fiez pas à l'absence ou à la présence de ce signe clinique. Alors, si on a une baisse de vision ou une nécessité totale, vous pensez forcément en fait au glaucome, mais il y a d'autres causes qui peuvent l'expliquer. Dans les stades avancés, on peut avoir une augmentation de la taille du globe. C'est-à-dire que le globe oculaire, sous l'effet de la pression qui augmente, va engendrer justement des variations barométriques et déformer à terme la sclère, qui pourtant, sclère, est quelque chose d'assez immuable en fait dans l'évolution. L'autre erreur qu'on va commettre fréquemment, c'est dans la mesure de la pression. Faites attention, même si vous disposez d'appareils numériques, digitaux, qui permettent de mesurer la pression intraoculaire, attention à la contention, ne serrez pas les jugulaires. Une compression trop importante sur les jugulaires ou trop serrée de l'animal va pouvoir engendrer une augmentation de 10 à 15 points de la pression intraoculaire. Je vous rappelle la norme, entre 15 et 25 mm de mercure, la pression moyenne constatée chez un chat, c'est une cote globale qui vous permet de connaître cette pression-là. Retenez également qu'en fait la pression ne doit pas être plus écartée de 7 à 8 points entre les deux yeux. Les glaucomes, comme je vous le disais, l'essentiel vont être secondaires en fait chez l'animal, donc consécutifs à des mouvements du cristallin, des uvéites, des tumeurs intraoculaires ou des traumatismes. Dans 70% des cas, donc c'est une origine secondaire. Dans 30% des cas, des malformations de l'angle iridocornéen, dont je vous ai parlé tout à l'heure, vont pouvoir favoriser ce genre d'apparition. On les retrouvera chez le bouvier des Flandres, le dogue allemand, le ski sibérien ou le springer spaniel. Les examens complémentaires souhaitables, donc comme je vous disais, mesure de la pression. Si vous ne disposez pas de tonomètres digitaux, il existe deux façons d'évaluer la pression intraoculaire. C'est la tonométrie digitée. Vous disposez vos mains de part et d'autre de la face de l'animal que vous examinez et vous allez appuyer à travers la paupière supérieure sur le globe oculaire à droite et à gauche et comparer la différence de pression que vous ressentez en fait. Donc la résistance en fait à la rétropulsion avec votre pouce. Deuxième possibilité, il existe un petit appareil qui s'appelle le Yopvet. Ce sont des appareils à moins de 100 euros qui permettent de mesurer cette pression. Leur précision n'est pas extrême, mais elle permet clairement en fait d'orienter sur une suspicion de glaucome ou non, de savoir si une pression est parfaitement normale ou si la pression va être relativement élevée par rapport à ce qu'on peut constater. J'ai coutume de dire que quand on voit un animal glaucomateux, l'examen il doit se porter surtout et aussi surtout sur l'œil opposé. Pour vérifier qu'en fait il n'y ait pas d'anomalie de l'œil de l'angle iridocornéen. Donc n'hésitez pas à recourir à la gonioscopie, qui est l'examen de l'angle iridocornéen. Vous pouvez aussi utiliser des techniques de pupillométrie chromatique pour évaluer éventuellement des lésions secondaires de la rétine ou du nerf optique. Et les examens d'imagerie, dès que vous avez une perte de transparence de la cornée, faites une échographie oculaire, même avec des sondes générales. Vous pouvez tout à fait réaliser des échographies plutôt satisfaisantes. L'intérêt principal, c'est de détecter des tumeurs, des saignements, donc des uvéites que vous n'auriez pas pu noter de l'extérieur, et le plus souvent, la luxation du cristallin qui se voit extrêmement bien à l'échographie. Le pronostic du glaucome va être à établir en fonction de l'amplitude de pression intraoculaire. Si la pression est très très élevée, au-delà de 80, le pronostic est souvent peu exceptionnellement bon. La durée d'évolution, un propriétaire qui vous dit avoir vu son animal douloureux il y a 15 jours, malheureusement l'espérance de récupérer une pression normale et une vision est en général assez délicate. La cause aussi en fait, hein, donc la luxation du cristallin, c'est l'affection qui présente le meilleur taux de réussite au niveau de l'intervention chirurgicale et du maintien de la vision. Et la vision, comme je disais tout à l'heure, pour moi c'est vraiment mon point d'orgue. Un animal qui ne voit plus lors de l'examen initial et qui ne voit plus depuis plus de 5 jours, la solution chirurgicale va être adaptée en fonction de ça. Et on va pas s'acharner à faire des traitements coûteux, on essaiera de faire un traitement durable qui donne du confort à l'animal. L'objectif du traitement, c'est de maintenir la vision, supprimer la douleur en faisant baisser la pression intraoculaire, et aussi de prévenir l'atteinte contralatérale, comme je le disais avant, donc vraiment d'être vigilant sur ces trois points-là. Le traitement d'urgence, en cas d'élévation de la pression au-delà de 40 mm de mercure, le plus efficace reste la parasynthèse. Ça consiste à enlever du liquide de l'intérieur de l'œil. Auparavant, en fait, on conseillait l'injection de mannitol, en fait, de sérum donc hypertonique qui vise à déshydrater justement les milieux intraoculaires. On a beaucoup moins recours en fait à ce genre de pratique désormais. On peut utiliser éventuellement des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, comme l'acétazolamide, non déposé, c'est Diamox, en injectable. Attention néanmoins en fait aux effets secondaires neurologiques qui peuvent arriver en cas de surdosage ou même sur des dosages normaux sur des chiens particulièrement sensibles. Les prostaglandines peuvent être utilisées comme le latanoprost. Attention néanmoins, on ne doit recourir à ces traitements que dans des cas non inflammatoires, donc que sur les glaucomes primaires. Et il y a une contre-indication d'utilisation chez le chat. En pratique, ça peut être adapté, mais personnellement, je déconseille quand même son utilisation chez le chat. On conseille aussi d'hospitaliser les animaux et de faire un suivi de pression. Donc si vous avez un tonomètre, vous pouvez tout à fait réaliser cela chez vous. Si toutefois vous n'avez pas le matériel, je vous conseille de référer assez rapidement le cas. Dans les moins de 24 heures, il faudrait qu'il soit pris en charge. Le traitement, il va être étiologique. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une luxation du cristallin, ben, il faudra extraire le cristallin. S'il y a une uvéite, on va traiter l'uvéite. Et il y a un traitement d'entretien qui va viser en fait à gérer le problème de pression sous deux axes, de baisser la production d'humeur aqueuse en agissant au niveau du corps ciliaire par l'intermédiaire d'inhibiteurs de l'anhydrase carbonique comme l'acétazolamide, le brinzolamide, le dorzolamide, donc des molécules qui sont présentes dans différents collyres humains. souvent associé avec des bêta-bloquants comme le timolol. Le timolol, en pratique vétérinaire, il a très peu d'incidence. En fait, c'est un bêta-bloquant qui va baisser la production en diminuant l'afflux sanguin au niveau de l'œil. Sincèrement, en gamme vétérinaire ou en utilisation vétérinaire, peu d'intérêt. Donc, soit on va baisser la production d'humeur aqueuse, soit on va augmenter le drainage en fait en utilisant éventuellement des produits hypotenseurs comme les analogues de la prostaglandine, on en a parlé avant, donc Xalatan, Travaprost, etc. Attention chez le chat. Et aussi, utilisation éventuellement de parasympathico-mimétiques comme la pilocarpine, dont l'effet va être de générer un myosis qui va augmenter la surface de l'iris et ainsi augmenter la réabsorption uvéale. On peut utiliser également des produits qui n'ont pas d'effet sur la pression, mais qui vont permettre de protéger la rétine, comme l'amlodipine, qui a une action sur les canaux calcium, et une protection justement des cellules rétiniennes. En dernier recours, on peut recourir à des chirurgies en fonction, donc comme je vous disais tout à l'heure, si l'œil est voyant, on pourra avoir recours à un traitement chirurgical permettant d'évacuer l'excès de liquide. C'est ce qu'on appelle la pose de goniochinte. Ces systèmes qui vont drainer l'excédent de liquide, une sorte de bypass qui va faire ressortir les saturations de pression de l'œil, éventuellement associés ou avec un traitement seul qui consiste à détruire l'écorce ciliaire partiellement en réalisant une cyclodestruction laser, soit par voie externe, transclérale, ou soit par voie interne, en fait, avec une cyclocoagulation par endolaser. Ces techniques sont assez intéressantes, néanmoins peuvent poser des problèmes sur le long terme puisque les rechutes sont souvent fréquentes. Lorsque l'œil ne sera pas voyant, les deux possibilités ou trois possibilités à entrevoir sont pour moi la pose d'une prothèse intraoculaire, c'est la première raison, sauf dans les cas de tumeur intraoculaire ou de suspicion de tumeur intraoculaire, auquel cas je ne vous recommande pas cette technique et l'énucléation devrait être réalisée. Dans tous les cas, même quand vous réalisez la pose d'une prothèse intraoculaire, il est fortement recommandé de faire analyser de manière histologique le contenu de l'œil pour être sûr qu'il n'y ait pas une tumeur latente. L'énucléation est la seconde possibilité, souvent pour des propriétaires donc, qui ne veulent plus avoir de soucis, qui ne veulent pas voir l'œil déformé, ou lorsqu'on a des troubles de cornée qui rendent impossible la pose de prothèse intraoculaire. Enfin, on peut utiliser pour des propriétaires ayant des budgets limités l'injection en fait, de gentamicine, la cyclodestruction chimique. La gentamicine a un effet cytotoxique sur le nerf ectoderme et donc va avoir une action en fait, de destruction des corps ciliaires, de baisse de la pression intraoculaire assez rapide. Par contre, on fait une croix sur la rétine qui est aussi d'origine ectodermique, donc qui va être détruite par la gentamicine. Attention, risque de surdosage par rapport à ces injections qui vont entraîner des diminutions de la taille de l'œil, on appelle ça des phtisies du bulbe. Et aussi dans d'autres cas, donc à l'inverse, en cas de sous-dosage, j'estime en général que 10 à 15% des cas nécessitent une réinjection lorsque le volume est trop faible, lorsque le volume de gentamicine est trop faible. Donc voilà, donc à retenir aujourd'hui les principaux pièges en matière de glaucome, je vous disais tout à l'heure, c'est la mauvaise ou non détection des tétrades, des symptômes, principalement l'absence de mydriase sur les cas qui peuvent être référés. Donc si vous avez un animal qui est en myosis, il ne peut pas être en glaucome, ce n'est pas possible. Ensuite, vous avez la présence d'une rougeur oculaire. Vous avez un œdème cornéen et pas forcément systématiquement, mais bien souvent, vous avez de la douleur oculaire associée. La perte de vision est un élément vraiment qui va vous guider sur l'urgence de référer. Un animal en glaucome qui a une vision qui est maintenue, il faut réellement s'en inquiéter très rapidement. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter le podcast que j'ai monté qui s'appelle L'œil au clébard. Il y a tout un épisode qui est consacré avec une vétérinaire qui parle que de ça pendant près d'une heure, en fait, sur le glaucome. Vous allez avoir 5 questions désormais pour savoir exactement si vous avez compris ou pas le principe d'exposé du jour. La circulation de l'humeur aqueuse provient d'écorce ciliaire ou provient de l'iris? Oui, c'est bien ça. Ce sont les corps ciliaires en fait qui vont les process externes des corps ciliaires qui vont produire l'humeur aqueuse qui va circuler au sein de l'œil. Deuxième question, lors de la prise d'une pression intraoculaire avec un appareil digital, est-ce qu'il faut une contention plutôt étroite par votre assistante ou vous préférez une contention la plus légère possible? Oui, c'est ça, une contention la plus légère possible, sans quoi vous allez faire monter la pression et avoir forcément un biais de mesure. Troisième question, lorsque vous avez un animal suspecté de glaucome, quels symptômes vous aurez forcément de manière systématique en cas de glaucome? Est-ce que vous aurez une douleur assez intense ou est-ce que vous aurez de manière classique une mydriase assez marquée, une mydriase aréflexique? Ouais, comme je vous le disais avant, hein, la douleur n'est pas systématique en fait en cas de glaucome, mais vraiment la mydriase, elle, c'est vraiment une constante absolue, donc vous aurez dans tous les cas. Donc si vous n'avez pas de mydriase, recherchez peut-être éventuellement d'autres causes. Au niveau du traitement, en cas de glaucome suraigu, vous êtes sûr que c'est un glaucome, vous n'avez pas possibilité de référer, et vous avez une pression qui est élevée en fait au-delà de 60 mm de mercure, est-ce que vous allez préférer appliquer du xalatan dans l'œil ou essayer de tenter de faire une parasynthèse pour enlever une partie du liquide de l'œil? Oui, c'est ça. Une parasynthèse est la plus indiquée. Elle consiste à ponctionner la chambre antérieure. C'est un geste qui doit être réalisé donc sous tranquillisation afin d'éviter tout traumatisme secondaire en fait hein, donc de l'œil. Donc question suivante. Vous êtes confronté à un cas de glaucome. Vous avez un œdème cornéen qui est très important et vous n'arrivez pas à visualiser l'intérieur de l'œil. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une parasynthèse de la chambre antérieure ou est-ce que vous prenez votre sonde d'échographie et vous échographiez l'œil? Oui, c'est ça, on échographie l'œil. N'importe quelle sonde linéaire, si possible, à haute fréquence, au-dessus de 10 MHz, va vous permettre déjà d'avoir de très bonnes images. Vous mettez de l'anesthésique locale, vous faites ça sur un animal vigile, vous posez du gel d'échographie traditionnel en couche assez épaisse, de façon à pouvoir bien voir la chambre antérieure. Donc il faut bien 4 à 5 cm de gel échographique pour bien visualiser et éventuellement localiser. Une éventuelle luxation du cristallin. Dernière question. Sur un cas de glaucome en phase terminale, vous avez un propriétaire dont l'animal n'est plus voyant depuis plusieurs semaines, il ne souhaite pas être référé. Quelle injection, donc quel produit vous allez pouvoir utiliser pour injecter en intravitréenne pour limiter la pression intraoculaire? Est-ce que c'est la gentamicine? Est-ce que c'est l'oxybuprocaïne ou est-ce que c'est la tétracycline? Oui, c'est ça, c'est la gentamicine. Donc la gentamicine, il y a d'autres produits qui peuvent être actifs également. Les doses recommandées, donc de gentamicine pour un intravitréenne, pour calmer la pression intraoculaire d'un animal, va osciller entre 0,5 et 1 ml de solution injectable de gentamicine classiquement retrouvée dans la pharmacopée vétérinaire. Je vous dis à très bientôt.